Chapitre 28. Les lumières de la ville. Les trois couples descendaient la rue en direction de la Seine, tournant le dos à la colonne verte et la place Vendôme. La nuit naissante effaçait progressivement les monuments de Paris, en commençant par les clochers et les toits, les tours du sanctuaire, la flèche du tipi, jusqu'aux fenêtres des étages supérieurs de la conciergerie. Alix et Zizo, Sabine et Hakan, Agnel et Mano avaient erré dans les rues désertes de la ville une grande partie de la journée, savourant cette étrange impression de liberté après 13 semaines de captivité dans une prison dorée. Au fil de leur promenade, ils avaient croisé quelques êtres vivants, principalement des prémats occupés à nettoyer les rues, ramasser les déchets ou traquer les chiens errants. Chaque fois, les ados les avaient observés bizarrement, comme des fantômes ou des personnages sortis des images d'un livre. Zizo et ses compagnons commençaient seulement à prendre conscience que leur tête avait été affichée pendant près de 100 jours à la une de la feuille de chou et qu'ils étaient devenus, en quelque sorte, des célébrités. Les 6 étaient presque parvenus au fleuve quand le soir acheva de poser son couvercle noir sur la ville. Ils distinguaient à peine leurs pieds, et Zizo s'apprêtait à sortir pour la première fois la lampe laser que Jacques lui avait offerte. Il n'eut pas le temps de glisser la main dans sa poche. Paris, d'un coup, s'illumina. Ce furent d'abord les monuments qui, un par un, défièrent l'obscurité. Le tipi et la pyramide brisée surgirent dans la même seconde, éclairés par des dizaines de projecteurs. L'instant d'après, des spots bleus ressuscitèrent le sanctuaire avant que la place de l'Aiguille, le musée aux deux horloges, la conciergerie, le pont des arts ne s'illuminent à leur tour. Un peu partout dans Paris, on entendait des exclamations de surprise, à peine couvertes par le vrombissement de moteurs en bord de Seine.
« Ils ont réactivé les moulins !» expliqua Agnel. « Les fameuses micro-éoliennes, ces turbines bien plus puissantes que les anciennes !» Liu m'avait expliqué qu'elles étaient presque au point. En combinant l'énergie de l'eau et du vent, elles peuvent fournir une bonne partie de la ville en électricité.
Et comme pour confirmer ses dires, les réverbères de la rue de Castiglione s'allumèrent les uns après les autres, traçant une longue ligne droite du palace de Yac jusqu'à la place de l'Aiguille. Mano tournait la tête dans tous les sens, fasciné par cette magie plus puissante que le soleil et la lune réunies.
« Wow !» murmura Sabine. « Il n'a pas fait les choses à moitié. Vanille a dû sortir un sacré paquet de lune des coffres-forts de sa BNM. »
Ils avancèrent, tels des papillons de nuit hypnotisés par la lumière. Plus ils se rapprochaient de la Seine, plus les trottoirs étaient occupés par des groupes d'ados, bien plus fascinés par les impressionnants éclairages de la ville que par la réapparition des ex-fugitifs. Doucement, la foule convergeait en direction du sanctuaire où, dans moins d'une heure, se tiendrait la veillée. Les 6 adolescents suivaient le mouvement, silencieux, se laissant griser par l'émerveillement du moment. Place de l'Aiguille, ils virent la plupart des groupes s'arrêter, puis les regards se tourner vers les Champs-Élysées, eux aussi entièrement illuminés. Au loin, de petites silhouettes apparaissaient sous l'arc de triomphe alignées sur toute la largeur de l'avenue. Mètre après mètre, à une vitesse parfaitement régulière, elles grossissaient. Ils comprirent alors pourquoi les boulevards avaient été éclairés à ce moment précis, pour rendre plus spectaculaire encore le défilé. Ils aperçurent d'abord, au-dessus de la rue, les drapeaux verts du Grand Cerf. Ils entendirent ensuite le son du cor de chasse et reconnurent immédiatement cette façon inimitable qu'avait Mook de souffler dedans. Ils virent enfin Bill s'avancer en premier sur un magnifique cheval blanc. King Bill se redressait autant qu'il le pouvait, enveloppé dans sa cape de tigre, sa couronne d'osier posée sur la tête. Il adressait de petits signes de la main aux garçons et aux filles massés sur le trottoir, qui l'applaudissaient à tout rompre. Il était le général victorieux qui revenait du Grand Sud, juste à temps pour la veillée du sanctuaire. Il était le plus grand explorateur du Nouveau Monde. Il était un héros. Il était admiré, enfin. Il avait tant rêvé de ce moment de gloire. et ça ne faisait que commencer. À bonne distance, derrière Bill, c'était au tour de Jeanne d'Arc de défiler, entouré de la plupart de ses cavaliers. Tous arboraient leur rutilant uniforme rouge coquelicot, mais les spectateurs n'avaient Dieu que pour leur monture, une vingtaine de magnifiques pur sang aux robes tachetées de feu et d'ivoire, des étalons puissants comme personne n'en avait vu auparavant. Des murmures d'admiration couraient le long des trottoirs, devinant que l'expédition avait capturé ces chevaux sauvages à l'autre bout du monde. Mais déjà le bruit des sabots sur les pavés s'éloignait, laissant place à la suite du défilé. Des adolescents marchaient, pieds et mains liés par une corde, encadrés par d'autres soldats à cheval, armés de bows aiguisés.
« Ah, Marie-Lune !» murmura Alix. « Des prisonniers de guerre !»
Les ados menottés marchaient avec docilité. Ils paraissaient stupéfaits par les lumières dans la nuit, les monuments éclairés, comme si Paris n'appartenait pas à la planète sur laquelle ils avaient grandi. Ils portaient tous une épaisse couverture de laine vierge posée sur leurs épaules, laissant visible la fameuse verte croix tatouée dans leur cou.
« Les pauvres !» fit Sabi en les observant passer. « Ils doivent être terrifiés et dire qu'on les regarde tous comme des girafes ou des rhinocéros qu'on aurait capturés !»
La parade s'achevait avec les chariots, conduits par Osman et Braza. Mais déjà la foule se déplaçait pour suivre le convoi jusqu'au parvis du sanctuaire. Ils reconnurent Constel, qui prenait des notes, Moebia, qui embrassait Pastor, Donatello, qui saluait Leonarda, tous heureux de se retrouver. Les Champs-Élysées, dans quelques minutes, seraient à nouveau déserts.
« Zizou !»
cria soudain une petite voix aiguë. Chrysante, sur le trottoir d'en face, agitait ses jambes et ses bras en une curieuse danse désaccordée.
« Zizou !»
cria-t-elle encore plus fort.
« Tu n'es pas mort, alors ?»
Elle traversa la rue en courant, sans se soucier des derniers chariots du défilé. Zizou comprit que Chrysante n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis le jour de la grande battue, 3 mois plus tôt, et leur fausse dispute place de l'Aiguille. Même si Zizou n'avait pas souvent pensé à elle au palace, il était sincèrement ému de la retrouver.
« Sabi ! Alix !»
crièrent d'autres voix.
« Vous êtes enfin sortis ! On a eu tellement peur !»
Éclipsant Chrysante, une demi-douzaine de Lolly Girls se précipitèrent sur les fugitifs amnistiés. Lunella la première, mais aussi Estive, Suzy, Cheyenne, Liu les suivait à grandes enjambées. Elles tombèrent dans les bras les unes des autres, riant, pleurant, laissant fusiller des
« Mais où étiez-vous passé ?»
des « Vous ne devinerez jamais !» des « T'as bonne mine, moi qui te croyais caché au fond d'un terrier ?» et des « Quand tu vas savoir, ma chérie, tu vas crever de jalousie !» Tout à leur effusion, les filles ne remarquèrent pas la petite ombre chancelante qui se tenait derrière eux. Elles finirent tout de même par sentir une entêtante odeur âcre, se tournèrent et découvrirent Valère. Alors, sans aucune précaution pour son pauvre corps maigre recouvert de plaies, les Lolly Girls l'entourèrent, le soulevèrent, l'embrassèrent, détournant le nez de la pâte infecte qu'il mâchait et leurs yeux de ceux de Valère qui pleuraient de bonheur et de honte à la fois. Parmi les fugitifs, seul Mano était resté étranger à l'euphorie des retrouvailles. Il ignorait même le nom de la plupart des ados qui s'étreignaient. Il scrutait avec obstination les quais de la Seine, là où 3 mois auparavant, sa roulotte, conduite par Diamante, avait disparu. Il espérait. Diamante avait forcément lu la feuille de chou. Elle était au courant pour l'amnistie. Elle n'allait pas manquer la veillée du sanctuaire. Elle allait forcément revenir à Paris. Elle allait. Il reconnut le hennissement de Grove juste avant d'apercevoir la roulotte tournée place de l'Aiguille.
« Diamante !»
Aussitôt, Mano courut à perdre haleine en direction de la belle gitante, sa sœur de cœur, laissant Agnel seule au milieu de la liesse des amis retrouvés, triste et désemparée. Les ados s'étaient tous rassemblés sur le parvis du sanctuaire. Des spots bleus avaient été installés un peu partout autour de la cathédrale, accrochés autour, au toit des maisons les plus proches ou aux branches des arbres. La position et l'intensité des rayons de lumière avait été étudiée par les singes et les savants pendant des semaines pour obtenir le résultat le plus saisissant possible. Une nuit bleue, à la fois intime et solennelle, transformant en une créature fantastique chaque squelette d'arbre, chaque gargouille de la cathédrale et même chaque visage d'ado ébloui. S'appuyant sur la magie de la scénographie, le conseil avait posé des règles strictes pour la soirée. Seuls les anciens ados du tipi et du château avaient l'autorisation d'entrer dans la cathédrale selon le rituel traditionnel. Tous les autres, prémats, primitifs et même promus, devaient attendre dehors. Ils pouvaient ainsi se joindre au chant, admirer les illuminations, partager l'émotion de cette veillée du souvenir, mais la hiérarchie devait être respectée. De même, le ballet devait être parfaitement chorégraphié. Ils l'exécutaient chaque année, depuis leurs 6 ans et avant sans doute, même s'ils n'en conservaient que de vagues souvenirs. Les anciens du tipi se rangèrent à gauche, soulevant leurs cages d'osier dans lesquelles patientaient sagement les colombes. Les anciens du château se rangèrent à droite, bougies à la main, attendant le dernier moment pour les allumer. Soutim entonna la première note, et les spectateurs, d'une même voix, se mirent à chanter « Nous, les enfants du nuage, tous orphelins sans souvenir !» Les promus se joignaient au cœur. « Puisque nous avons le même âge, serons gardiens du même avenir !» Les prémas et primitifs, qui pour la plupart ne comprenaient que quelques mots, se contentaient de rythmer la mélodie en frappant dans leurs mains. « Marie-Lune veille sur notre bonheur, elle guide nos pas, ouvre nos yeux !» Augénor et Mordélia apparurent à ce moment précis. Mordélia, couronne d'immortel sur la tête, poussait Augénor, assis dans son fauteuil roulant. Les deux rangées, ceux du château et ceux du tipi, s'écartèrent pour les laisser passer. Mordélia avait posé une main presque amoureuse sur l'épaule de l'ado handicapé. Le symbole était d'une telle pureté. L'ancienne sorcière du tipi, jadis habitée par la haine, réconciliée, complice avec le conseiller du château, jadis si méprisant envers ceux du tipi. Une 20aine de gardes civils, tous cagoulés, lourdes bourses à la ceinture, se tenaient derrière la reine et le grand cerf, vigilants, surveillant primitifs et prémats, au cas où l'un d'eux aurait envisagé de profiter du rituel pour lancer une attaque terroriste. Mais non, aucun des ados marqués de la verte croix ne bougeait. Mordélia dévisagea fièrement chaque ancien du tipi. Mouk, Suzy, Pépin, Noam, Gulo-Gulo, s'attardant sur Bill, oubliant volontairement de croiser les yeux de Zizo, Daniel et, plus curieusement, de Vanille. Augénor, à l'inverse, n'eut pas un seul regard pour ceux du château. Ses yeux l'emmenaient plus loin, entre la foule serrée des cajoleurs et des ferrailleurs, des empesteurs et des tisseurs, au-delà des 3 premiers rangs, vers une roulotte garée, un cheval broutant avec indifférence, et une jeune fille aux yeux de charbon qui soutenait le regard du grand cerf, sans baisser ni cligner une seule fois des paupières. Mordélia continua de pousser le fauteuil roulant, et la reine et son conseiller entrèrent par la grande porte du sanctuaire. Derrière eux, les deux anciens clans s'alignèrent en 2 longues files, pour pénétrer à leur tour dans la cathédrale. Les uns, une cage à la main, les autres, une bougie allumée. La reine, le grand cerf, ainsi que les 5 ministres, s'assirent au 1er rang. Conformément à la tradition, Alix dut se séparer de Zizo, tout comme Sabi se sépara d'Akan, chacun de son côté, même s'il n'était éloigné que de 20 mètres de part et d'autre de l'allée centrale. Agnel, Akan et Zizo s'installèrent sur le même banc, à la hauteur de celui de Sabi, Alix, Valère et Lunella. Les rayons bleus étaient entrés, eux aussi, traversant les vitraux et s'écrasant sur les hauts murs blancs, tels des milliers d'insectes nocturnes fluorescents. Le silence était impressionnant, tout autant que le froid saisissant. Seul Sabi, décidément incapable de respecter la moindre règle, s'agitait.
Chut ! Murmura Alix à l'intention de son ami.
Dans quelques instants, les colombes, libérées des cages, s'envoleraient. Depuis toute petite, c'était le moment qu'elles préféraient.
« C'est Lunella !»
chuchota Sabi.
« Elle ne va pas bien !»
Soudain inquiète, Alix observa la Lolly Girl assise à sa gauche. Sabi la soutenait, mais Lunella tremblait, regardant fixement l'immense rosace de la cathédrale au-dessus de la porte d'entrée.
C'est Sol Solario,
parvint-elle à articuler.
Solario,
répéta Alix. Elle savait que parfois, Lunella communiquait avec son frère décédé. Il lui parlait, ou lui envoyait des messages, en particulier quand elle était en danger.
« Il !»
continuait d'annoncer la Lolly Girl.
« Il faut sortir, tout de suite. Il va se produire un grand malheur. Nous sommes en danger de mort !»